Section 1, le mariage. Chapitre 1, faits et principes importants. Le projet originel de Dieu, c'est Dieu qui célébra le premier mariage. Cette institution a ainsi pour fondateur le Créateur de l'univers. Que le mariage soit respecté. C'est l'un des premiers dons de Dieu à l'homme et c'est l'une des deux institutions qu'Adam emporta avec lui lorsqu'il franchit les portes du paradis, après la chute. Quand les principes divins sont respectés, le mariage est un bienfait. Il est une sauvegarde de la pureté et du bonheur de l'homme. Il pourvoit à ses besoins sociaux, il élève sa nature physique, intellectuelle et morale. Approuvé de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas un péché en soi de manger, de boire, de se marier ou de marier ses enfants. Au temps de Noé, le mariage réalisé dans des conditions normales, loin des excès, était une institution légale, ce qu'il est également de nos jours. Concernant le mariage, je voudrais dire, lisez la parole de Dieu. Même à notre époque, les derniers jours de l'histoire du monde, des mariages ont lieu parmi les adventistes du septième jour. En tant qu'Église, nous n'avons jamais interdit le mariage, sauf dans les cas où il apparaît clairement qu'une union serait une souffrance pour les deux intéressés. Et même dans ce cas, nous nous sommes contentés de leur donner un avis et un conseil. Une préparation pour le ciel, qu'ils se souviennent, au contraire, que notre demeure terrestre est un symbole de notre demeure céleste pour laquelle elle nous prépare. Dieu veut que le foyer soit l'endroit le plus heureux de la terre, le vrai symbole de notre domicile céleste. En assumant au foyer les responsabilités de la vie conjugale, en unissant leurs intérêts à la personne de Jésus-Christ, en se reposant sur sa force et sur ses promesses, le mari et la femme peuvent connaître, dans cette union, un bonheur que les anges de Dieu approuveront. Une union pour la vie, le mariage, union pour la vie, est un symbole de l'union entre le Christ et son Église. Dans l'esprit des jeunes, le mariage est auréolé de romantisme. On a du mal à le dépouiller de cet aspect dont l'imagination le revêt, et à faire comprendre tout le poids des responsabilités inhérentes au vœu du mariage. Cet engagement unit les destinées de deux êtres par un lien que seule la mort devrait briser. On devrait réfléchir sérieusement avant de se marier, car le mariage est un pas que l'on franchit pour la vie. Que l'homme et la femme s'interrogent avec soin pour savoir s'ils pourront rester fidèlement attachés l'un à l'autre au travers des vicissitudes de l'existence aussi longtemps qu'ils seront tous deux en vie. D'un point de vue élevé, ceux qui font profession de christianisme ne devraient pas entrer dans les liens du mariage sans avoir examiné la question d'un point de vue élevé, avec soin et prière, pour voir si Dieu sera glorifié par cette union. Ils devraient ensuite réfléchir sérieusement aux conséquences de l'exercice de leurs droits conjugaux et mettre un principe sanctifié à la base de tous leurs actes. Réfléchissez sérieusement pour savoir si votre vie conjugale sera une réussite ou un échec. Posez-vous la question, cette union m'aidera-t-elle à marcher vers le ciel? Augmentera-t-elle mon amour pour Dieu? Élargira-t-elle mon cercle d'utilité dans cette vie? Si vous n'apercevez aucun obstacle, allez de l'avant dans la crainte de Dieu. Tout au nom du Seigneur Jésus, celui qui est sur le point d'épouser une femme devrait prendre la peine de se demander en toute sincérité pourquoi il s'engage dans cette voie. Sa femme sera-t-elle pour lui une aide, une compagne, son égale, ou bien se conduira-t-il envers elle de telle sorte qu'il lui cachera la gloire de Dieu? Va-t-il se risquer à laisser libre cours à ses passions, et voir jusqu'à quel point sa femme peut supporter les soucis et les fardeaux de la vie sans dépérir? Ou bien réfléchira-t-il au sens des paroles suivantes, « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus » Nécessité d'une préparation sérieuse, avant d'assumer les responsabilités du mariage, jeunes gens et jeunes filles devraient connaître suffisamment les devoirs pratiques de la vie pour arriver à y faire face. Il ne faut pas encourager les unions précoces. Un engagement aussi important et ayant des répercussions aussi étendues que celles du mariage ne devrait pas être pris sans une préparation suffisante, et avant que les forces physiques et mentales soient développées. Ma chère Emma, Il n'est personne qui tienne dans mon cœur une aussi grande place que vous. Aussi, je vous recommande d'avancer avec prudence et de peser chaque décision. Vous allez franchir un pas qui vous engagera. N'agissez donc pas avec précipitation. Ne vous laissez pas obnubiler par la seule pensée du mariage. Prendre conseil auprès de Dieu, nous devrions toujours avoir à l'esprit les paroles du Christ, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint et les emporta tous. Nous voyons aujourd'hui la même insouciance à l'égard du mariage. Des jeunes, et même des hommes et des femmes qui devraient faire preuve de sagesse et de clairvoyance, agissent comme s'ils étaient ensorcelés sur ce point. La puissance de Satan semble s'emparer d'eux. Fréquentation et mariage sont les sujets qui passent avant tout autre. Des unions irréfléchissent-nous. On ne prend pas conseil de Dieu. Les sentiments humains, les désirs et les passions renversent tout sur leur passage jusqu'au point de non-retour. Cet état de choses débouche sur des souffrances indescriptibles, et le Seigneur est déshonoré. Le lit conjugal n'est pas sanctifié. N'y aura-t-il pas de changement radical sur ce sujet si important? Lettre 6, 1890. Ne s'unir qu'à des croyants, la femme de Lot, nature égoïste et irréligieuse, avait fait beaucoup pour séparer son mari d'Abraham. N'eût été cette femme, Lot ne serait jamais resté à Sodome, privé des conseils et de la sagesse de son oncle. Sans les enseignements reçus d'Abraham dans son enfance, le contact de cette femme et de la population dépravée de cette ville l'eût sûrement fait sombrer dans l'incrédulité. Le mariage de Lot et le choix de Sodome comme résidence furent ainsi les premiers anneaux d'une chaîne d'événements funestes qui affligèrent le monde durant plusieurs générations. Nulle personne craignant Dieu ne peut sans danger s'unir à un conjoint qui n'a pas cette crainte. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Le bonheur et la prospérité dans le mariage dépendent de l'union des deux époux. Or, entre le croyant et le non-croyant, il existe une divergence radicale de goût, d'inclination, de projet. Ils servent deux maîtres distincts et inconciliables. Les principes du conjoint croyant ont beau être irréprochables, la vie en commun l'attirera loin de Dieu. Mais les mariages entre chrétiens et infidèles sont interdits dans la Bible. L'ordre du Seigneur est formel, ne vous mettez pas sous un joug étranger en vous unissant aux infidèles. Qu'il n'y ait pas d'alliance non sanctifiée entre les enfants de Dieu et les amis du monde, entre croyants et incroyants. Que le peuple de Dieu tienne fermement pour la vérité et la justice. Les jeunes chrétiens devraient apporter un soin attentif aux choix de leurs amis et de leurs camarades. Prenez garde de peur que ce que vous pensez être de l'or ne se trouve être du vil métal. Les relations mondaines mettent des obstacles en travers du chemin de ceux qui veulent servir Dieu. Bien des âmes sont ruinées par des unions malheureuses, soit dans les affaires, soit dans le mariage avec des personnes qui ne peuvent exercer une influence ennoblissante. Le peuple de Dieu ne doit jamais s'aventurer sur un terrain défendu. Dieu a interdit les mariages entre croyants et non-croyants. Trop souvent cependant, le cœur inconverti suit ses désirs, et l'on contracte des mariages que Dieu ne peut approuver. Pour cette raison, beaucoup d'hommes et de femmes sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. Leurs nobles aspirations sont mortes, un enchaînement de circonstances les retient dans les filets de Satan. Priorité aux droits de Dieu, même si le compagnon de votre choix était digne sous tous les rapports, ce qu'il n'est pas, il n'a cependant pas accepté la vérité pour notre époque. C'est un incroyant, et le ciel vous défend de vous unir à lui. Vous ne pouvez, sans péril pour votre âme, mépriser cette injonction divine. En vous unissant à un incroyant, vous vous placez sur le terrain de Satan, vous contristez l'Esprit de Dieu, et vous perdez sa protection. Oserez-vous prendre un tel risque dans votre combat pour la vie éternelle? Vous direz peut-être, « Mais j'ai donné ma parole, comment pourrais-je maintenant la reprendre ?» Je réponds, « Si vous avez fait une promesse contraire aux Écritures, il faut absolument l'annuler sans délai. » Puis, humblement devant Dieu, Repentez-vous de la folie qui vous avait amené à faire un vœu inconsidéré. Il vaut bien mieux reprendre une telle parole que de la tenir et de déshonorer ainsi votre Seigneur. Dans sa parole, le Seigneur enseigne clairement à ses enfants à ne pas s'unir à ceux qui n'ont pour lui ni amour ni crainte. De tels compagnons ne se contenteront pas de l'amour et du respect qui leur reviennent de droit, mais ils chercheront sans cesse à obtenir de la femme ou de l'homme attaché à Dieu quelques faveurs susceptibles de les entraîner à mépriser les exigences divines. Pour un homme pieux comme pour l'Église à laquelle il appartient, avoir une épouse ou un ami aimant le monde équivaut à avoir un espion dans son camp, qui guettera chaque occasion de trahir le serviteur du Christ et à l'exposer aux attaques de l'ennemi. Satan cherche constamment à renforcer son pouvoir sur les enfants de Dieu en les incitant à s'allier avec les armées des ténèbres.